Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée, dont voici les titres. Journée nationale de l'enseignement à Matadi au Congo central. Cette journée n'est pas passée inaperçue malgré les difficultés liées à la profession. Les enseignants restent motivés et continuent à dispenser les cours avec passion. Processus de Doha, aucun prisonnier n'a été libéré 3 jours après l'expiration du délai convenu entre le gouvernement congolais et l'FC M23 à Montreux en Suisse. Sur le terrain, les combats se poursuivent et les accusations de violation du cessez-le-feu se multiplient. Notre invité est un enseignant de carrière. Âgé de 82 ans, Gaspard Mubukia exerce depuis 1961. Aujourd'hui, il enseigne en deuxième année à l'école primaire Kindouville. Vous allez suivre son parcours ainsi que le partage de son expérience à la génération future dans une interview accordée à Radio Okapi. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. À Matadi au Congo central, la journée nationale de l'enseignement célébrée chaque 30 avril n'est pas passée inaperçue. Malgré des conditions socio-professionnelles souvent difficiles, de nombreux enseignants affirment rester motivés et continuer à dispenser le cours avec passion. Élise Kavira s'est rendue à l'une des grandes écoles de la ville, Ntete Mboa, pour échanger avec quelques enseignants en cette journée dédiée à l'honneur de leur métier. Suivez son reportage.
L'enseignement, ce métier noble qui façonne des vies. En cette date fixée pour rendre hommage aux enseignants, nous avons porté le choix sur le professeur Kalonji Senga. Actuellement professeur de français en classe de 8e au collège Ntete Mboa, cet homme de 63 ans est riche de plus de 37 années d'expérience dans l'enseignement. Il nous partage le secret de sa motivation.
Moi, je me vois enseignant à l'école primaire déjà. C'est-à-dire quand j'étais déjà en deuxième primaire, j'encadrais ceux qui étaient en première. Dans un premier temps, je m'en doutais, je me disais non, je voudrais être médecin. Mais aujourd'hui, le destin m'a rattrapé. Bien, je suis enseignant jusqu'à aujourd'hui. Nous pourrons ne pas être bien payés. Mais lorsque je vois mon élève, magistrat, ministre, journaliste, en tout cas, c'est ça même qui fait notre fierté.
Le métier de la craie continue d'attirer les jeunes, à l'exemple de Daniel Soko, jeune professeur d'anglais encore dans la vingtaine. Pour lui, partager son savoir est ce qui le passionne.
Quand on connaît, on veut quand même partager avec les autres. Donc c'est pas d'abord pour avoir une bonne vie, mais ce qui est vrai, c'est d'abord la passion. Parce qu'en enseignant, on enseigne, il s'enseigne aussi lui-même.
Au terme de nos échanges, le professeur Kalonji Senga a exprimé le souhait de voir un jour l'enseignement en République démocratique du Congo être adapté aux besoins réels de la jeunesse congolaise.
À Bounia, une ancienne enseignante a décidé d'abandonner la craie pour se lancer dans le petit commerce. Solange Vourazi, aujourd'hui vendeuse de fruits, affirme mieux gagner sa vie qu'à l'époque où elle exerçait le métier d'enseignante qu'elle estime toujours peu valorisé. Toujours attachée à cette profession, elle appelle le gouvernement à revaloriser les enseignants qu'elle considère comme le socle du développement d'un pays. Isaac Rémoé peut nous en dire plus.
Solange Bourassi a débuté sa carrière d'enseignante en 2017 dans une école de Bounia après ses études. Mère de 8 enfants, elle percevait à peine $80 par mois. Selon elle, ses revenus ne suffisaient pas à couvrir les besoins de sa famille, encore moins à payer les frais scolaires de ses enfants. Après 4 années de persévérance, sa situation sociale s'est détériorée, poussant certains de ses enfants à abandonner l'école. Face à ces difficultés, elle a décidé de quitter l'enseignement, un métier qu'elle dit pourtant avoir toujours aimé, pour se lancer dans la vente des fruits au centre-ville de Bounia, une activité qui lui permet aujourd'hui de mieux subvenir à ses besoins, d'épargner, de construire une maison et même d'acheter une moto. Malgré ces changements, elle reste attachée à l'enseignement et appelle le gouvernement à revaloriser ce secteur, notamment par une augmentation des salaires.
J'ai abandonné l'enseignement parce que on me payait presque à retard et puis l'argent ne suffisait pas. C'est pour cela que j'avais quitté. Maintenant, je suis dans le commerce. J'ai déjà acheté une moto. J'ai aussi construit.
Le cas de Solange Vourassi n'est pas isolé. Plusieurs enseignants ont déjà quitté la profession en Ituri au détriment de la formation des élèves. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Chaque 30 avril, le monde célèbre la Journée internationale de la non-violence en milieu scolaire. Au Kasaï central, le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, dénonce les punitions physiques et psychologiques infligées à certains élèves par des enseignants. Maître Vincent Kayembe souligne que ces pratiques constituent une violation des droits de l'enfant. Il invite les enseignants à privilégier des sanctions adaptées, favorisant une éducation respectueuse et protectrice. Suivez Maître Vincent Kayembe au micro d'André Katinde Ngalamoulomé.
Nous lançons un message interpellateur qui mobilise contre toutes sortes de violences éducatives, des violences physiques. Il y a des coups qu'on administre aux enfants. Généralement, ces violences conduisent aux lésions corporelles. Donc le climat malsain qui découle du fait des violences administrées à l'enfant, ce climat-là doit être extirpé des milieux scolaires. C'est mieux de respecter le droit de l'enfant, c'est mieux d'assurer la promotion, c'est mieux aussi de sensibiliser. Parce que si souvent, nous avons toujours enregistré des cas pareils, travaillons main dans la main pour extirper de nos milieux scolaires toutes les violences utilisées en termes de méthodes que les autres considèrent comme des méthodes éducatives. Nous nous disons, ce sont des actes de violence, nous devons extirper tout cela pour utiliser d'autres méthodes plus adaptées afin d'assurer l'éducation de nos enfants.
La question de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC a été au centre d'une question orale avec débat ce mercredi au Sénat. La ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, Marie-Thérèse Sombo-Ayane, a été interpellée par le sénateur Patrice Pongwe-Mbuyu sur la politique nationale d'amélioration de ces secteurs. Face aux critiques des élus, la ministre a reconnu des difficultés tout en rassurant sur les efforts du gouvernement pour élever les défis. Le point avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
Présidée par Jean-Michel Samaloukonde, la plénière du Sénat a été marquée par cette interpellation qui a donné lieu à des vifs échanges. Une vingtaine de sénateurs ont dressé un constat alarmant dénonçant la dégradation des universités publiques dans leur province. Infrastructures délabrées, auditoires non équipés, amphithéâtres insuffisants et personnel académique démotivé. Face à ces critiques, Marie-Thérèse Sombo a reconnu les faiblesses du système tout en évoquant les efforts du gouvernement, notamment un audit en cours dans les universités publiques. Au regard des nombreuses préoccupations soulevées, elle a sollicité un délai de 48 heures pour revenir devant les sénateurs avec des réponses détaillées. Cette discussion met en lumière l'ampleur de la crise dans le secteur, plusieurs élus n'hésitant pas à qualifier le système universitaire des secteurs au bord de l'effondrement, appelant à des investissements conséquents pour redonner espoir à la jeunesse congolaise.
Je le disais en titre, aucun prisonnier n'a été libéré 3 jours après l'expiration du délai convenu entre le gouvernement congolais et l'FC M23. Pourtant, les deux parties s'étaient engagées le 17 avril dernier à Montreux en Suisse à des mesures de confiance après 5 jours de discussions dans le cadre du processus de Doha. Sur le terrain, les combats se poursuivent et les accusations des violations du cessez-le-feu se multiplient. Les détails avec Martial Papimukeba.
Au total, 311 prisonniers liés à l'AFC M23 et 166 du côté du gouvernement devaient être échangés. Mais à ces jours, soit 3 jours après l'expiration de l'échéance convenue, aucun mouvement. Selon nos sources, les deux parties ne se sont toujours pas entendues, notamment sur les liens de l'échange. Le processus est pourtant censé être facilité par le comité international de la Croix-Rouge qui agit comme intermédiaire neutre. Outre la libération des prisonniers, un autre engagement porté sur les déploiements sur le terrain du mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu. Cette mission devait débuter le 24 avril avec l'appui logistique de la MONUSCO, soit une semaine après la signature du communiqué conjoint. Cependant, la mission de l'ONU insiste sur plusieurs préalables. La fin de l'usage des drones offensifs, l'arrêt du brouillage des signaux GPS, ainsi que la garantie de la liberté des mouvements pour son personnel. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Le gouvernement et l'AFC M23 s'accusent mutuellement de violer les cessez-le-feu, notamment par l'usage des drones, preuve que pour l'instant, les engagements pris peinent à se traduire en acte. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Justice militaire à Kisangani. Le procès de plus de 80 militaires des FARDC s'est ouvert ce mercredi sur la place des martyrs au cœur de la ville. Poursuivis pour révolte et refus de combattre à la suite d'incidents survenus à Pinga, dans les territoires de Walikale Nord Kivu, ces militaires doivent répondre de leurs actes. Ce procès public est présenté par la hiérarchie comme un rappel à la discipline au sein des troupes. Le point avec Jacques Moukonkole.
L'audience de ce jour devant le tribunal militaire de garnison a été consacrée à une étape cruciale, l'identification des prévenus. Un à un, les 80 soldats ont été présentés au juge pour acter leur identité avant d'entrer dans le vif des accusations, notamment révolte, refus de combattre et dissipation de munitions. Les faits survenus à Walikale pour un retard de prime avaient plongé la population de Pinga dans la terreur. Une fois la séance levée, c'est sous escorte à bord d'un camion militaire Kamaz que les prévenus ont été reconduits à la prison centrale de Kisangani. Pour le major Nestor Mavoudissa, porte-parole de la 3e zone de défense, ce procès qui durera 2 semaines est avant tout pédagogique. Il s'agit de rappeler qu'au front, aucun grief ne justifie de violer le règlement, la discipline restant la mère des armées. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Un mot sur la santé dans ce journal. Province du Lualaba, 30 cas suspects et confirmés de Mpox sont signalés depuis le début de cette année dans la prison centrale de Dilala à Kolwezi. D'après des sources locales contactées ce mercredi par Radio Okapi, les mauvaises conditions de détention au sein de cet établissement pénitentiaire favoriseraient la propagation rapide de cette maladie. Aucune réaction des autorités du Lualaba pour le moment. Le point avec Paulin Munanga.
Il y a 22 cas d'impox confirmés et 8 cas suspects dans la prison de Dilala, indiquent plusieurs sources locales. Les malades sont isolés au sein de la prison de Dilala dans un local qui servait à l'organisation des audiences. Les mêmes sources rapportent que la promiscuité au sein de cette prison favoriserait la propagation rapide d'impox. Cette maison carcérale, qui a une capacité d'accueil de 500 à 600 détenus, héberge actuellement plus de 1500 pensionnaires, indiquent certaines sources à la prison. Le ministère provincial de la Santé du Lualaba a envoyé certains produits pour la prise en charge des malades et du matériel pour la protection des médecins, renseignent les mêmes sources. Signalons que dans son bulletin sur l'état de santé de la population de la province du Lualaba, publié le 24 avril dernier, la cellule de surveillance épidémiologique de la division provinciale de la santé indique que les données de la 16e semaine, soit du 13 avril au 19 avril dernier, étaient déjà de 26 cas confirmés d'impox dans la commune de Dilala à Kolwezi. Et la majorité des malades se trouveraient dans la prison de Dilala. Nous n'avons pas pu joindre le ministre provincial de la Santé du Lualaba. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Santé encore avant d'aller plus loin. Au Nord Kivu, le lancement officiel de la 2e vague de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants âgés de 0 à 59 mois est intervenu ce jeudi à Goma. Cette phase concerne les zones de santé des territoires de Lubero, Masisi, Nirangongo, Rutshuru, ainsi que celle de la ville de Goma qui n'avait pas été couverte lors de la première vague. Selon le responsable du programme élargi des vaccinations PEV, la campagne vise à éradiquer la poliomyélite dans la province. Le docteur Hans Batey rappelle l'importance de cette opération pour renforcer l'immunité collective. Ses propos ont été recueillis par Bernadette Nyangui.
On a encore beaucoup de cas de polio dérivés. Et la province du Maniema, qui est voisine au Nord Kivu, a notifié des cas, ce qui fait que en étant limitrophe par les territoires de Walikale, nous devrons protéger les enfants du Nord Kivu. Mais aussi, ce qui est évident, quand il y a un cas de polio dérivé, c'est que l'infection autour a déjà attrapé beaucoup d'enfants. Donc, il faut les protéger par l'immunisation. Mais aussi, il y a de nouveau-nés qui ne sont pas protégés. On doit également les protéger lors des campagnes de vaccination, y compris bien sûr la vaccination de routine. Alors, nous allons vacciner pour la province du Nord Kivu plus de 2 400 000 enfants des 34 zones de santé. Mais pour le Nord Kivu, nous l'avons fait en 2 étapes. Il y a l'antenne de Butembo qui a commencé la campagne à partir du 23 jusqu'au 25. Ils ont déjà fini. Et l'antenne de Goma qui va commencer du 30 avril jusqu'au 2 mai. C'est juste pour des raisons logistiques.
Actualité internationale.
Se dirige-t-on vers un apaisement des relations entre Paris et Antananarivo Après la forte tension diplomatique des derniers jours, la présidence malgache a annoncé ce mercredi soir, 29 avril, que le colonel Michael Randrianirina et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus au téléphone suite aux convocations mutuelles de chefs des missions diplomatiques dans les deux pays. La France et Madagascar miseront sur la confiance mutuelle pour bâtir un partenariat durable, a écrit la présidence malgache dans son communiqué.
L'invité.
Notre invité est un enseignant de carrière. Âgé de 82 ans, Gaspard Moubukia exerce depuis 1961. Aujourd'hui, il enseigne en deuxième année à l'école primaire Kindouville. Dans un entretien accordé à Florence Kizalunga, il revient sur son parcours, partage son expérience et adresse des conseils aux jeunes générations tout en formulant quelques recommandations à l'intention des dirigeants. Il s'exprime à l'occasion de la Journée nationale des enseignants célébrée le 30 avril.
Suivez. Monsieur Gaspard Moubukia, bonjour.
Bonjour, bonjour maman.
Depuis quelle année avez-vous embrassé ce métier?
Moi d'abord j'étais enseignant à partir de 1961. Mais j'enviais cette carrière puisque pour connaître un type bien habillé, celui qui est en bonne vue, vous allez voir c'était enseignant. Beaucoup remarquent que c'était Mwalimu qui vient. Mais actuellement Mwalimu est considéré comme un ouvrier de la Somenki. D'abord j'ai quitté le petit séminaire pour être enseignant. Le père qui me disait... Vous êtes maudit. Moi, je ne suis pas maudit. Je voudrais devenir enseignant. Et je suis devenu enseignant à partir de 1961. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Et je peux vous dire que dans ma carrière, j'ai eu un vélo, une chemise de cadeau pour les meilleurs enseignants du Maniema à Kindouville.
Alors, vous avez quelle expérience dans ce métier après votre intégration comme enseignant full depuis 1961?
En tout cas, à notre époque, il y avait ce n'est que deux personnages dans l'administration. Un Mwalimu et un infirmier. Nous étions bien considérés. Et d'ailleurs, on avait un salaire vraiment qui répond à tous les besoins. Tout le monde, toute la population était pour vous. Chacun voudrait vraiment avoir l'amitié avec moi puisque je dois lui donner quelque chose. Mais je ne comprends pas, je ne critique pas, mais qu'on devrait d'abord voir ce que nous avons fait, ce que nous avons vécu. Moi, je n'avais pas l'intention d'aller pour devenir enseignant. J'étais au petit séminaire, mais j'ai quitté directement. Je dis non, je dois être Mwalimu. Notre carrière, en tout cas, était bénite.
Alors, quel souvenir gardez-vous de ce métier d'enseignant plus de 65 ans aujourd'hui?
Il y a beaucoup de souvenirs. J'étais d'abord reconnu par les parents et puis la condition de vivre était très, très, très bonne. Et on considérait l'enseignant comme, je ne sais pas, celui qui est de l'autre ciel. C'est pour cela que parmi nous, les Mwalimu, on nous a exécutés en 1964 pendant la rébellion sauvage. On devrait d'abord nous donner quelque chose pour nous encourager.
Comparativement aux années passées et à cette époque ici, comment vous comparez le travail d'un enseignant?
En tout cas, ça reste un nom, un enseignant. Mais tout ce que nous avions comme quelque chose d'encouragement, rien, 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 rien. Un Mwalimu peut casser sa vie aujourd'hui, demain on va vous l'enterrer, mais il n'y a rien, rien qu'on fait comme cérémonie de se souvenir que ce type nous a rendu un bon service. Il fallait qu'il y ait vraiment la correction. À notre époque, il n'y avait pas des fraudeurs. Nous avons des faux Mwalimu actuellement, quelques-uns, je ne dis pas tout le monde, mais un Mwalimu, c'est celui qui connaît tout. Tout le monde venait demander des renseignements ainsi de suite. Des corruptions, donner quelque chose. Non, à notre époque, ça n'existait pas.
Bien sûr, mais que recommandez-vous aujourd'hui aux autorités, aux dirigeants pour que l'enseignant soit remis vraiment dans son assiette?
Si on revient encore pour de mêmes avantages que nous avions dans les années passées, en tout cas, on aura les bons enseignants, mais les autres qu'on a ramassé quelque chose devient Mwalimu. Est-ce qu'il connaît ça? Il est fraudeur. En classe, c'est comme une statuette. Il ne fait absolument rien. Il demande, comprenez-moi, oui, il tape des enfants. Mais à notre époque, on ne tapait pas, on donnait des devoirs à domicile. En tout cas, il faut vraiment voir, pour engager des enseignants, il faut nettoyer, voir un enseignant qui mérite d'être enseignant.
Déjà éligible à la retraite, M. Gaspard, quel conseil est donné aux générations montantes?
Je voudrais que la génération montante imite ce que nous faisons, ce que nous sommes, puisque nous étions responsables de la vie des enfants. On donnait cours comme il faut à mes enfants d'imiter ce que nous avons fait, nous, nos anciens enseignants de l'époque. On ne peut pas remarquer un enseignant qui ne connaît pas, non. Déjà, les enfants commencent à connaître que c'est d'autres moalimou ne s'en sortent pas dans cette leçon. Il n'a pas préparé sa leçon. Nous avons préparé nos leçons à la maison. Il ne faut pas être esclave des livres pour commencer à parler et à donner la leçon comme celui qui cause avec ses amis. Alors, les enfants sont attirés par votre comportement.
Vous avez un petit message à tous les enseignants qui fêtent leur journée aujourd'hui comme vous?
Mes chers amis, je vous conseillerais de garder votre grade d'enseignant. Ne soyez pas découragés. Je vous prie de remédier votre situation, de donner cours comme il faut. Soyez modèles et soyez partout un petit peu bien éduqués. En tout cas, courage.
Messieurs Gaspard Moubukia, merci.
Merci beaucoup, maman.
C'était là les cris de cœur de notre invité, l'octogénaire Gaspard Moubukia, qui enseigne depuis 1961 et il s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée coordonné par Élisée Chikota Chivueta, supervisé par Alain Irong Mouchinge et mis en onde par Jean-Claude Ntsiala Mwanama Kengun Tsualu. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.